Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, comment allez-vous en ce 12 mai 2026? C'est ça, je disais à Mathieu, on dirait que j'ai le trac. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de micro, mais le 1er mai, j'ai quand même célébré mon... Je pense c'est... J'ai commencé en 89, on est en 2026, ça fait quoi, 37 ans? Bon, alors j'essaie de m'appuyer là-dessus. Je me dis, t'as de l'expérience, fille! On se calme!
C'est pas votre premier rodéo, ma chère Hélène, comme vous dites souvent.
Non, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'en suis presque émue. Et aussi, je sais pas si Denis Martin Chabot est à l'écoute. Je sais qu'il nous écoute quelquefois en balado, en faisant du vélo stationnaire ou n'importe quel exercice. Denis Martin, je t'envoie un baiser et je te dis que j'apprécie énormément que tu sois là. Denis Martin qui a dit oui. Il dit oui souvent, Denis Martin, et il est capable de remplacer au pied levé. Il a un professionnalisme qui m'impressionne. Alors, je t'aime, Denis Martin. Merci beaucoup d'être là. Et je vous aime aussi, chers auditeurs et auditrices. Je suis pleine d'amour aujourd'hui. Bonjour, André.
Bonjour, Hélène.
Ça me fait plaisir de vous retrouver.
Pareillement.
Nous, on s'était parlé il y a deux semaines. Vous êtes ici en onde à toutes les deux semaines. Vous parlez quelquefois de mots. Avez-vous entendu ça dans le dictionnaire? Le mot « fac » est rentré, paraît-il? Je pense que c'est dans le Robert.
Je ne savais pas.
Fac. Moi, quelqu'un qui dit ça aux trois mots.
On nivelle par le bas un peu.
Ouais. Fac, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Fac, je suis de retour du Portugal, comme vous pouvez le constater.
Mathieu est découragé. Oui, c'est vrai, avec un beau teint quand même. Mais ça fait quelques semaines déjà.
Oui, quand même, hein, ça passe vite. Alors, je vous fais aujourd'hui ma première de deux chroniques sur l'Algarve.
Ah, oh, que vous avez aimé, hein, je pense.
Oui, c'est une région qui occupe tout le sud du Portugal, en fait. Le sud du Portugal, c'est l'Algarve. Région paisible, bucolique. C'est bien de la visiter au printemps aussi avant la frénésie de l'été, parce que l'été, c'est très occupé.
Ah oui.
Donc, c'est une belle période.
Il y a foule.
Et l'automne aussi, je présume.
Oui, c'est tellement beau. On veut voir.
Absolument.
On veut visiter cet endroit. Puis en plus, vous me disiez que c'était pas très cher.
Effectivement. C'est encore abordable. C'est encore abordable. Un des rares endroits en Europe encore abordable.
Plus de détails.
Une autre bonne
raison
d'y aller.
Merci André, à plus tard. Et nous aurons également la chronique économie avec Michel Poitvin. On parlera avec Sandrine Rousseau, marraine, et Stéphanie Hamel, filleule de parrainage civique des Basses Laurentides, qui ont reçu toutes deux le deuxième prix tout récemment. Là, c'était la semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril. Et Sandrine et Stéphanie ont reçu un des prix Gérard Hamon. Alors, ça me fait plein plaisir de leur parler un peu plus tard dans cette émission. Anne-Marie Aubin, événement, elle qui fait des chroniques livres depuis, elle me disait 7 ans, là, je ne suis pas sûre, il faudrait vérifier, mais depuis longtemps, elle fait des chroniques livres à cette antenne dans l'émission au quotidien et elle se rend en studio pour la toute première fois. On ne s'est jamais vu. Mathieu ne l'a jamais vu. Moi, c'est mon ami Facebook, alors je sais de quoi elle a l'air. On s'est déjà parlé au téléphone, mais en chair et en os, là, ce sera une première. Donc, je ne sais pas comment on va réagir, mais ce sera donc à 10h33 dans ces eaux-là. Et puis, c'est pas mal ça. Ça commence en beauté, je pense. Voici The Beatles.
Comes the sun, and I say, it's all right.
Here Comes Helen, Here Comes the Sun de The Beatles.
Eh oui, j'ai été absente la semaine passée. Je remercie aussi toute l'équipe de Canal M c'est la meilleure équipe au monde qui me comprend et on se comprend, je pense. On est solidaires entre nous. À la une du Journal de Montréal en ce mardi 12 mai 2026, empoisonnés par leur génératrice, ça fait peur, ça. Intoxication au monoxyde de carbone. On voit tous les visages des victimes, près d'une vingtaine de Québécois tués. Une coroner qui a enquêté sur le décès d'un homme de 76 ans intoxiqué au monoxyde de carbone provenait d'une génératrice. Sonne l'alarme face au gaz provenant d'une génératrice, dis-je bien, sonne l'alarme face à ce gaz sournois. D'autant plus que depuis 8 ans, près d'une vingtaine de Québécois ont perdu la vie dans des circonstances similaires. À mon avis, il s'agit tous de décès évitables, a résumé Maître Francine Danet dans son récent rapport sur la mort de Richard Lajoie, survenu le 11 novembre dernier. L'histoire de ce résident de Saint-Jean-sur-Richelieu n'a rien d'un cas isolé. La coroner s'est inquiétée parce qu'il s'agirait de la 18e personne depuis 2018 à avoir été tuée par le monoxyde de carbone d'une génératrice. Aussi appelé tueur silencieux, ce gaz est incolore, inodore et toxique. Richard Lajoie a rendu l'âme en activant l'engin dans son garage lors d'une panne de courant provoquée par une tempête de verglas. C'est en allant remettre de l'essence dans la génératrice qu'il a perdu la vie. Une quinzaine de minutes plus tard, sa conjointe a constaté que l'électricité n'était toujours pas revenue, Richard Lajoie non plus. Elle a finalement trouvé le septuagénaire inconscient au sol, ses vêtements imbibés d'essence. Il s'agissait pourtant d'un scénario redouté par la compagne de l'aîné, laisse entendre la coroner dans son rapport. Celle-ci lui avait souvent conseillé de mieux aérer le garage lors de l'utilisation de la génératrice, mais il répondait que la fenêtre ouverte de quelques centimètres suffisait. 4 autres personnes sont décédées dans des circonstances semblables, soit lors de tempêtes de neige ou de verglas. L'ensemble des victimes du monoxyde semblait d'ailleurs toutes croire d'emblée que la pièce où se trouvait leur génératrice assurait une certaine circulation d'air, peut-on lire dans les différents rapports concernant ces décès. Or, une exposition au monoxyde de carbone peut être mortelle en seulement 4 minutes, avertit monsieur Maître Danet, la coroner. Alors, là-dessus, on donne des conseils de sécurité aussi. N'utilisez pas de génératrice portative à combustible à l'intérieur ou dans des endroits partiellement fermés, que ce soit à la maison, au chalet ou dans votre garage. Lorsqu'elles sont en marche, maintenez les génératrices portatives à combustible à une distance d'au moins 6 mètres de votre maison, ainsi que de ses portes et de ses fenêtres. Avant de remplir votre génératrice portative à combustible, arrêtez-la, puis laissez-la refroidir afin de réduire le risque d'incendie. Un texte coup de poing, et surtout quand on voit les victimes, il y en a de tous les âges, c'est terriblement triste. L'ex-ministre Bélanger se vide le cœur, c'est aussi à la une du Journal de Montréal, une transformation numérique suicidaire, ce sont ses mots. La transformation numérique du Québec entraînera une dérive budgétaire suicidaire, plaide l'ex-ministre du numérique Gilles Bélanger, qui estime s'être fait tasser du gouvernement Fréchette parce qu'il dérangeait. À la une du Devoir maintenant, on parle du Festival de Cannes qui s'ouvre aujourd'hui. La croisette dans les studios, mais pas sans les Américains. Le festival est lancé, mais sa relation tumultueuse avec Hollywood continue d'alimenter les conversations. C'est Joseph Sirica qui est à Cannes et dans la presse, il y a Marc Cassivi qui y est, ainsi que Manon Dumais. Alors, je reviens au Devoir. Contrats publics fédéraux, le français mis de côté pour éviter des délais. La commission de la Capitale-Nationale n'a offert des contrats qu'à des entreprises anglophones. Une société d'État fédéral, la Commission de la Capitale-Nationale, CCN, favorise des entreprises anglophones dans la réalisation de certains projets afin d'éviter de devoir traduire des documents en français, a pris le Devoir. Créée par le Parlement en 1959, la CCN est l'intendante des propriétés fédérales à Ottawa-Gatineau. Selon le service des communications de la société d'État, elle octroie chaque année près de 2000 contrats d'une valeur totale de 120 millions de dollars dans la région de la capitale fédérale. Éducation, les sorties scolaires culturelles sont-elles de nouveau en danger? Pendant sa course à la chefferie caquiste, Christine Fréchette, première ministre du Québec, s'était engagée à maintenir des sorties scolaires en milieu culturel. Or, les nouvelles règles proposées par sa ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, permettront aux écoles de financer le sport et les activités parascolaires avec des sommes autrefois exclusivement consacrées aux sorties culturelles et aux visites d'artistes en classe. Les 38 millions de dollars leur étant autrefois réservés se fondront dans une enveloppe couvrant aussi le sport et le parascolaire. Et finalement, la une de la presse plus, on parle de l'IA, épreuve uniforme de français, l'IA cause un branle-bas de combat. De nombreux cégepiens ont été soupçonnés par le ministère d'avoir triché à l'examen à l'aide de l'intelligence artificielle sans qu'on parvienne à le démontrer dans la majorité des cas. La méthode de détection des textes jugés suspects faisait en partie appel à l'IA. Et Hugo Dumas, dans une nouvelle triste concernant le monde de la télévision, de l'audiovisuel, TVA, ampute le salaire de ses vedettes.
Clara Luciani respire encore.
Merci beaucoup, Mathieu. Et on s'en va au Portugal, dans la région d'Algarve, avec André Lacombe. André, qui y était récemment. Alors, donnez-nous vos impressions d'abord et quelques petites informations générales sur l'Algarve.
Alors, pour bien vous situer, chers auditeurs, l'Algarve, c'est l'extrême sud du Portugal, entre le littoral atlantique à l'ouest et au sud et la frontière espagnole à l'ouest. Portugal, hein, c'est assez étroit, donc l'Algarve, c'est une largeur maximum de 100 km. Donc, c'est une région facile à parcourir. Puis c'est une bande d'à peu près 50 km de haut. Alors, ça se visite bien. Pas de grandes villes ici, là. C'est des petites villes, de nombreux villages où on a de la pêche, qui est vraiment une grande activité commerciale. Quelques cultures agricoles aussi, comme l'orange, l'avocat et la figue. Mmh. Et on cultive des oranges 12 mois par année en Algarve, hein? Il y a plusieurs variétés, donc ça sent toujours bon.
Ah oui, la pêche aussi, hein?
Beaucoup de pêche, oh oui, tout à fait. C'est très important encore. Le tourisme, bien sûr, hein, c'est une des principales activités économiques de la région, principalement sur la côte directement. Malgré tout, l'Algarve conserve son authenticité, malgré le tourisme, comme partout ailleurs, très présent.
Tant mieux!
Donc, c'est un coin de pays, je le disais, paisible, bucolique, où on peut effectuer de nombreuses randonnées en nature. C'est très nature comme coin. Paysage est vallonneux, verdoyant, du moins au printemps. J'imagine que rendu à l'automne, ça a été cuit par le soleil, mais là, en mars-avril, les arbres, les plantes, ça fleurit, c'est beau, ça sent bon.
Un beau vert tendre.
Oui, un peu plus avancé parce que ça commence assez tôt en saison. On sent la fleur d'oranger partout, là. Moi, du temps que j'y étais...
Très agréable,
oui. Et comme la population est concentrée sur la côte, surtout, donc l'arrière-pays est très calme, presque sauvage par endroits, avec des villages assez clairsemés. Des fois, en Europe, on ne s'attend pas à ça. On dirait que les villages se touchent, mais pas ici. Pas de grands monuments, de musées mémorables, de cathédrales flamboyantes. C'est plutôt un endroit pour la farniente, pour vivre un petit peu en dehors du temps. Alors, c'est une belle expérience pour décrocher. Alors là, c'est les impressions d'un touriste de passage à la mi-saison, bien sûr. Hein?
Parce vous-même, que l'été, André Lacombe.
L'été, tout à fait, je m'assume. L'été, les touristes affluent de partout pour profiter des très nombreuses plages sur toute la côte. Il y a beaucoup de monde l'été, c'est ce qu'on nous a dit.
Ce sont les plages surtout qui attirent les gens.
Oui,
l'été.
Beaucoup, parce qu'elles sont exceptionnelles, ces plages-là. Là. Rien à voir avec des petites plages de galets minuscules comme on a souvent en Europe. Ça peut se comparer à des plages, certaines plages des Caraïbes qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Là. Avec du sable un peu plus grossier, là, mais quand même, c'est assez spectaculaire. Je ne m'attendais pas à ça. La côte est aussi marquée par des falaises dorées, découpées comme de la dentelle. C'est ça aussi, l'Algarve. C'est magnifique.
Vous ne nous donnez pas du tout le goût d'y aller.
Ah non, hein? Plusieurs grottes à l'intérieur de tout ça, souvent accessibles par la mer ou par en haut, où on peut descendre dans les grottes. C'est spécial, c'est très particulier.
Alors, André, maintenant, vous nous parlez de votre première escale en Algarve. La ville, je ne sais pas comment on la prononce, Albufeira?
Albufeira.
Et puis ses environs.
Oui. Quand je parlais de rares exceptions sur les effets moins positifs du tourisme, je pensais justement à Albufeira, du moins pour une partie de la ville qui s'est transformée en haut lieu du tourisme de masse, avec des fast-foods, des restos bas de gamme, des enseignes un peu criardes. Mais c'est injuste, ce serait injuste de résumer Albufeira seulement à cela, parce que c'est une ville assez vaste. Il y a plusieurs endroits agréables où s'y promener, deux belles plages aussi en front de mer. Et c'est un lieu qui rassemble plusieurs options d'hébergement, que ce soit en appartement ou en hôtel. De notre côté, on avait un appartement sur la partie haute de la ville, à l'écart du bruit et de l'agitation, avec une belle vue sur la mer, mais au loin, mais quand même. Et on pouvait atteindre le centre en 15 à 20 minutes de marche, et ça nous menait au travers d'un grand, grand parc très joli.
OK.
Donc,
alors, il y a moyen d'avoir la paix.
Tout à fait.
À Albufeira.
Oui, tout à fait. Et à partir d'Albufeira, mais c'est bien localisé, on a pu rayonner vers plusieurs endroits. Alors, je vous en nomme quelques-uns. La ville de Lagos, à l'ouest, plus typique des petites villes de l'Algarve, avec ses petites places, des églises, des boutiques, des petits restos sympathiques. À 3 km au sud de Lagos, vous accédez au cap de Ponta da Piedade, où vous pouvez vous promener sur des petits sentiers bien aménagés pour améliorer de magnifiques points de vue sur l'océan et aussi sur les sommets des falaises et de différentes formations rocheuses. C'est un des bons endroits là, pour se donner une idée des falaises de l'Algarve. On en a plein la vue.
Allez pratiquer l'admiration.
Absolument. Vous ne saurez plus où donner de la tête.
Ni des yeux.
Plus pittoresque que Lagos encore, plus authentique, c'est le petit village de pêcheurs de Ferragudo, avec ses ruelles étroites, ses maisons colorées et fleuries. Une église avec un promontoire d'où on peut admirer la rivière qui se jette sur l'océan, parce que le village est construit au confluent de la rivière et de l'océan. Des petits restos sans prétention, sauf sur la grande place, qui est peut-être un petit peu moins charmante, à mon sens. Ça monte et
moins
ça descend.
Typique.
Moins typique. Ouais. Ça monte et ça descend, hein, comme à plusieurs endroits en Algarve, c'est construit sur une colline. Alors, l'Algarve, ça fait les mollets. Quand on marche en Algarve, on se fait les mollets.
On se fait des jambes.
Tout à fait. Et de là, on peut mettre le cap 15 km à l'est, à Carvoeiro, qui est un autre village de pêcheurs, ou ex-village de pêcheurs, plutôt. Nous, à cet endroit-là, c'est pas tellement le village, mais on en a profité pour faire une petite randonnée sur un trottoir de bois installé en haut de la falaise, tout juste à gauche du village, quand vous regardez la mer, pour avoir une vue sublime sur le littoral et l'océan. C'est la perspective qui est magnifique. Un trottoir qui s'étend sur près d'un kilomètre et qui mène à un lieu qui se nomme Algar Seco, où vous pouvez avoir emprunté un escalier qui vous permet de descendre au cœur des rochers. Vous ne pouvez pas être plus dedans que ça.
Ouais.
C'est vraiment une expérience.
Vous êtes dans la roche.
Dans la roche.
Dans le caillou.
Dedans. Dedans jusqu'au dedans.
Est-ce que c'est agréable comme sensation?
Oui, oui, c'est agréable. C'est très sensoriel. Vous entendez comme un écho, la vague qui vient frapper sur la roche. C'est magnifique. Et l'arrière-pays aussi comporte de nombreux endroits intéressants à visiter, dont Silves, ou Silves, comme ils disent là-bas, parce qu'ils chuintent beaucoup, les Portugais. Un village qui est à environ 45 minutes au nord d'Albufeira. Sa principale attraction, c'est la forteresse de l'époque où les Maures dominaient la région, M-A-U-R-E-S.
Oui, ouais, j'allais le faire.
Entre le 8e et le 13e siècle. Ça fait fort longtemps, mais quand même. Ça vaut vraiment la peine d'être visité. Et pour compléter tout ça, un petit arrêt au musée municipal d'archéologie qui permet de mieux comprendre l'histoire de la ville et son patrimoine islamique très riche. Donc, ça complète bien la visite de la forteresse. Plus nature encore, grimper jusqu'au Barragem do Funchal, le barrage situé à peu près à la même distance d'Albufeira, 45 minutes, pour marcher sur le haut du principal barrage hydroélectrique de la région. C'est un petit lieu isolé en pleine nature. La route pour s'y rendre, c'est plusieurs points de vue à couper le souffle. On monte tout le temps, on grimpe, alors on voit la région.
Et de là, avez-vous eu vraiment le souffle coupé?
À plusieurs moments, écoutez, souffle coupé...
C'est une image.
J'en ai vu d'autres, mais...
J'en ai vu d'autres!
C'est quand même beau!
Oui, oui.
Non, mais j'aime
mais
voyager,
non, mais c'est vrai,
donc
vous êtes
j'en
un
ai
grand
vu des paysages dans ma vie.
Oui.
Mais c'est très beau. C'est très, très beau. Et de là, vous pouvez redescendre au petit village de Alte, A-L-T-E, pour casser la croûte.
Faire une halte à Alte.
Faire une halte à Alte.
Une halte à Alte, A-L-T-E.
Voilà.
Et en terminant, André, une ressource pour les personnes en situation de handicap qui désirent préparer un voyage en Algarve.
Oui. Alors, rendez-vous sur le site visitalgarve.pt. Donc, c'est visite sans E, comme à l'anglaise. Donc, V-I-S-I-T, oui, algarve.pt, tout ensemble.
Ouais.
Cliquez sur l'onglet à propos de l'Algarve et de là, sur l'Algarve accessible. Et vous trouverez plusieurs conseils et ressources sur l'hébergement, les transports publics, des idées de parcours, surtout urbains, dans les quelques villes de la côte, accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi des plages accessibles. On en dénombrait 47 lors du dernier recensement en 2024.
Ah, quand même. Il y en a certainement plus. On est rendu en 2026.
Oui, tout à fait.
Et André, vous avez parlé de restos sympathiques. Qu'est-ce que vous avez mangé de meilleur?
Ah, bien, c'est les poissons et fruits de mer là-bas. Mmh. Si vous n'aimez pas les poissons et fruits de mer...
Est-ce qu'il y a des sardines aussi, mais j'imagine que oui.
Il y a des sardines,
oui.
Tout à fait.
Ouais.
Il y a le porc pour s'y rabattre. Pour ceux qui n'aiment pas poissons, fruits de mer, c'est quand même des amateurs de porc. Mais alors, c'est une cuisine qui est simple. Hein. C'est des poissons grillés sur le grill avec un peu de citron, de l'huile d'olive.
Et ils aiment beaucoup les pommes de terre, hein?
Oui.
J'ai remarqué ça quand je suis allée. Pas en Algarve, mais au Portugal.
Bien, en Algarve aussi, je vous le confirme.
Oui. Vive la patate! Ben, merci beaucoup pour cette
avec
belle
plaisir.
Chronique qui nous a fait voyager. Ça fait toujours plaisir.
Oui.
Et on va se retrouver dans 2 semaines, André.
À bientôt.
Restez avec nous pour la chronique économie. André s'apprête à sortir et une entrevue pour parler de parrainage civique.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Oui, merci de le faire. Chronique économie maintenant avec Michel Poitevin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Vous n'êtes pas en studio ce matin, Michel?
Ben non, je devrais. Hein. En plein déménagement, alors je n'ai pas beaucoup de temps pour me promener.
Je vous taquine. Alors, aujourd'hui, donc, vous parlez d'inflation. Le Bureau américain de la statistique a publié les nouveaux chiffres d'inflation pour le mois d'avril.
Oui, en anglais, c'est le Bureau of Labor Statistics, l'inflation pour le mois d'avril, puis on l'attendait parce qu'avec la guerre en Iran, on sait que le prix de l'essence a augmenté, puis est-ce qu'on se demandait est-ce qu'il va avoir un impact sur l'inflation, pas seulement sur l'essence, mais sur les autres biens. Ben, c'est pas très beau le portrait qui est sorti ce matin.
Ah non?
C'est un peu pire qu'anticipé. On anticipait un taux d'inflation sur une base annuelle là, d'autour de 3,7% pour le mois d'avril. C'est un peu plus élevé à 3,8%. Et puis, je rappelle, au mois de mars, on était à 3,3%, mais en février, à 2,4%. Donc, l'inflation a augmenté, là, le taux d'inflation de 1,4% sur 2 mois. La guerre en Iran a débuté à la fin février, là, puis on commence vraiment à voir les effets sur l'inflation générale. Le coût de l'énergie en mars avait bondi de 12,5%, toujours sur une base annuelle là, aux États-Unis. En avril, 17,9%. Ça veut dire que dans le dernier mois, ça a vraiment augmenté beaucoup. Là. Donc, la guerre en Iran a un impact significatif sur le niveau des prix, le coût de l'énergie. Je pense pas que les prix de l'énergie sont à la veille de descendre là, avec les dommages causés aux infrastructures dans le Golfe. Au Moyen-Orient, ça ne sera pas facile. Ça va prendre du temps à s'en remettre. Puis la guerre n'est pas finie. Alors, il faut voir. Au Canada, on n'a pas encore les chiffres. Là. L'annonce est le 20 mai pour le mois d'avril. Je rappelle qu'en mars, l'inflation va augmenter de 1,8 en février à 2,4 là, pour le mois de mars, toujours sur une base annuelle. Là, on va voir au mois de mai, mais je pense pas que ça redescende. Puis probablement, ça va être un peu plus élevé que 2,4. Ça va être à suivre. On pourra en reparler en fait dans 2 semaines, là, parce que le 20 mai, je pense que ça tombe un mercredi. Alors, ça
d'accord.
Va aller, au mardi d'après.
Mais on compte sur vous, comme d'habitude. Maintenant, Québec solidaire était en congrès pour élaborer certains éléments de sa plateforme électorale. On a parlé d'impôts, entre autres.
Oui, entre autres, c'est ce qui a retenu beaucoup l'attention. Là, ça fait les manchettes là, depuis ce week-end. Québec solidaire a voté une proposition d'imposer un impôt. Évidemment, c'est dans la plateforme électorale. Là, Québec solidaire ne détient pas le pouvoir, là, on s'entend. Donc, c'est vraiment pour mettre dans leur programme électoral. Donc, un impôt de 1% sur toute la richesse au-delà de 25 millions. Donc, c'est la richesse, puis au-delà de 25 millions de dollars. Puis, au-delà de 100 millions, l'impôt grimperait à 2%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons quelqu'un, bon, on ne parle pas du commun des mortels, évidemment, là, mais quelqu'un aurait 30 millions d'actifs, quel serait l'impôt? Ben, c'est l'impôt au-delà de 25 millions. Donc, 30 millions d'actifs moins la déduction de 25 millions. Donc, ça fait 5 millions. Un impôt de 1 % la personne devrait payer 50 000 $ annuellement sur sa richesse en impôt, en dépôt ou de revenus et tout. Québec solidaire prévoit encaisser, là, si vous voulez, 5 milliards de dollars par année. Ce qui est quand même un bon montant, mais est-ce que la prédiction est fiable?
Ouais.
Il faudrait voir, puis là, on pourra y revenir, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée? On en parle dans plusieurs pays dans le monde. Il y a eu des économistes français, notamment Thomas Piketty, puis Gabriel Zucman.
Il y a des pour, il y a des contre.
C'est ça. Puis en France, il y a certains économistes qui poussent beaucoup pour ça, là, Piketty et Zucman, entre autres. C'est quoi les arguments pour? En gros, on fait ça, on dit il y a eu un accroissement des inégalités, on veut combattre les inégalités. Puis une façon, c'est de taxer la richesse, parce que souvent, les très riches, peut-être, ils n'ont pas des revenus conséquents avec leur richesse. Là. C'est-à-dire que peut-être que leur richesse s'accroît beaucoup, mais c'est tout du gain capital, puis on ne paye pas d'impôt sur ce gain capital-là avant de vendre un actif. Donc, si on a une action qui vaut 100 $ puis cette année, elle augmente à 150 $ on ne paiera pas d'impôt sur ce gain de 50 $ d'appréciation du prix de l'action tant qu'on ne la vend pas. Alors, les très riches, ils ont des actifs. Ces actifs-là ne sont pas vendus année après année, donc mais ils s'apprécient puis ils ne payent pas d'impôt. Alors, cet impôt sur la richesse-là, c'est une façon là, d'aller imposer ces gains en capitaux qui sont pas encore réalisés. Et pour donc vaincre les inégalités, puis derrière ça, on dit les gens qui ont des revenus payent de l'impôt, mais ceux qui ont des revenus en capital, ils devraient aussi payer de l'impôt, pas attendre à la liquidation de l'actif. Donc ça, c'est un peu comme les principes là, de ceux qui sont pour. Quels sont les arguments contre? Parce que c'est pas si évident. Un premier argument qu'on avance souvent, c'est des questions de ce que j'appellerais de la concurrence fiscale. C'est-à-dire que si, par exemple, le Québec a cet impôt sur la richesse, mais que l'Ontario ne l'a pas, c'est possible qu'il y a des gens qui déménagent leurs actifs en Ontario. Donc ça, c'est possible. Par exemple, le siège social d'une compagnie, peut-être que tu pourrais déménager ton portefeuille en Ontario, devenir citoyen fiscal ontarien, par exemple. Puis ça s'est observé ailleurs. En Norvège, il y a un impôt sur la richesse depuis quand même assez longtemps, mais on a remarqué que lorsque ce taux-là augmentait, il y a des gens qui quittaient, notamment pour la Suisse, donc des entrepreneurs norvégiens. Puis là, même, il y en a qui parlent, peut-être, parce que là, pour réagir à ça, la Norvège, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont mis un espèce d'impôt à la sortie. Donc, si un Norvégien s'en allait, par exemple, en Suède avec ses actifs, on évalue ses actifs, puis on dit, ils sont réputés être vendus, puis là, on met un impôt sur l'appréciation de la valeur de ces actifs-là qui quittent le pays. Il y en a qui disent, peut-être que les entrepreneurs n'attendront pas d'avoir trop d'actifs, puis ils vont aller démarrer leur entreprise. Quelqu'un qui a une bonne idée va s'en aller en Suède, par exemple, où le climat semble plus propice aux affaires. Donc, c'est contesté en Norvège, mais l'impôt est quand même maintenu. En Suisse, il y a également ça. Puis en Suisse, la structure fiscale est un peu différente. Là, c'est-à-dire que les cantons, c'est comme des municipalités élargies, ils ont un pouvoir de taxation des revenus ou de la richesse. Et c'est que certains des cantons ont un impôt sur la richesse. Puis on a remarqué, il y a des économistes qui ont regardé qu'il y avait une mobilité, les gens qui étaient, les riches qui étaient dans des cantons relativement taxés, changeaient de canton. Donc, ce phénomène-là de concurrence fiscale ou de mobilité, il est bien présent. Il faut en tenir compte. Puis probablement que dans la prédiction de 5 milliards de revenus que prévoyait obtenir Québec solidaire, on n'a peut-être pas tenu compte tellement de ces départs-là. L'autre chose, c'est la modification des comportements. C'est-à-dire que si on taxe plus la richesse, est-ce que ça va avoir un impact sur l'investissement? Puis là, il faudrait regarder, est-ce que les gens vont avoir moins intérêt à investir dans le capital de risque si on les taxe? 1 %, ça semble pas beaucoup. Donc, ça devient une question empirique, à savoir est-ce que les investissements vont être affectés peu ou beaucoup par un tel impôt. Mais l'autre facteur indu là-dessus, c'est que les gens qui, les entrepreneurs qui connaissent du succès puis qui amassent de la richesse, souvent cette richesse-là est active, c'est-à-dire qu'ils la recyclent, ils prennent ces gains-là puis ils réinvestissent dans d'autres entreprises. Puis il y en a beaucoup qui disent que l'essor aux États-Unis de la Silicon Valley, ben, c'est vraiment ça. Les premiers riches de la Silicon Valley ont réinvesti dans d'autres petites entreprises qui ont connu du succès, qui ont grandi, ça a créé d'autres richesses, ça a créé beaucoup de valeur. En somme, un impôt sur la richesse, ben, c'est possible que ce mécanisme-là ne fonctionne pas aussi bien.
Ouais.
Donc, l'autre chose, c'est qu'on a déjà un taux marginal d'imposition des revenus, pas de la richesse, qui est à 53 %, donc qui est relativement élevé. Là, c'est ton dernier dollar, quand tu es en haut d'à peu près, je pense, c'est 190 000 ou 200 000, il est taxé à 53 %. Donc, tu gardes seulement 47 % de ton dernier dollar ou tes dollars gagnés en haut de... Je ne me souviens pas du taux, c'est 180 et 200 000.
Ouais.
On a un impôt sur...
Un petit peu, à peu près, le même salaire que les joueurs du Canadien.
Ouais, ben, eux autres sont pas mal en haut de 200 000.
C'est une blague.
C'est ça. Mais en même temps, il faut faire attention, ils ont quand même, eux, des stratégies fiscales, puis ceux qui ne résident pas au Québec, ils vont compter le nombre de jours qu'ils sont au Québec, puis ça va être beaucoup au record et tout. Là.
Donc, d'en parler un jour.
C'est ça. Je pense qu'on pourrait parler à un fiscaliste qui pourrait expliquer ça, mais effectivement, ils ont des stratégies. Faut pas oublier aussi qu'on a un impôt sur la succession. Bon, ça reporte beaucoup l'impôt, mais quelqu'un qui décède est réputé avoir vendu ses actifs. Donc, ses héritiers n'auront pas la pleine fortune. Ils vont payer un impôt là-dessus. Donc, c'est comme si la personne décédée avait vendu la journée de son décès tous ses actifs, il serait soumis à un impôt sur le capital. C'est l'impôt que doivent payer les héritiers. Une autre chose que les gens... Il y a deux autres difficultés que j'aimerais mentionner. Là. Un, c'est la difficulté d'application. On taxe les revenus, puis les revenus, c'est assez facile à mesurer pour la plupart des gens. On obtient un T4, là, notre employeur prépare un T4 et est envoyé ou un relevé 1 au Québec, là, il est envoyé au gouvernement, puis ça fait état de nos revenus pendant l'année. Et puis on paye l'impôt sur la base de ces revenus-là déclarés par l'employeur. Au niveau de la richesse, c'est pas mal plus compliqué. Là. Comment on évalue la richesse? C'est un portefeuille financier. Tu as un compte, par exemple, bon, à Wealthsimple, mettons, on en avait déjà parlé.
Oui.
Un portefeuille financier. Wealthsimple pourrait produire un document à la fin de l'année, dire le portefeuille de telle personne vaut tant. Mais souvent, il y a des actifs qui sont pas qui sont difficilement évaluables. Mettons, quelqu'un a une importante collection là, de peintures de Riopelle et d'autres peintres célèbres, ça serait en haut de 25 millions, toutes ces peintures-là. Comment tu évalues ça? C'est pas comme un actif à la bourse, une action qui est transigée à chaque jour. Une peinture, c'est rarement vendu. Comment tu l'évalues? Donc, il y a tout un problème d'évaluation de certains actifs là, qui rendrait difficile l'application de cet impôt-là sur la richesse. Puis l'autre, une autre difficulté qui est avancée, c'est que parfois, pas toujours, là, mais parfois, on pourrait avoir une fortune qui est très élevée, mais très peu de revenus ou de liquidités. Ça avait été cet argument-là avancé notamment par les agriculteurs lors de la première mouture, je pense, il y a un an ou deux, de cet impôt sur la richesse proposé par Québec solidaire. On a mis la barrière maintenant à 25 millions, mais je pense qu'au début, on avait mis 1 million. Puis 1 million, des gens qui ont des grandes terres agricoles, la terre vaut rapidement une valeur, je peux pas valoir plus que 1 million de dollars. Mais ça ne veut pas dire que l'agriculteur, il y a beaucoup d'argent pour payer cet impôt-là, cette terre-là. C'est un actif qui n'est pas liquide. Et puis ton revenu en dépend, tu peux aller chercher un revenu, mais en même temps, si tu paies un impôt en plus de sur ton revenu sur la valeur de ta terre, ben, tu n'auras peut-être pas toutes les liquidités.
Ouais.
Là.
Michel, il faudrait conclure. C'est un sujet vaste et riche, là, mais là, oui. le temps file, il y a une entrevue qui s'en vient dans une minute.
Désolé, oui.
Bon, non, désolé pas. Soyez pas désolé, là.
Rapidement, deux mesures là, que je pense qu'on devrait... un, on va dire merci à Québec solidaire de stimuler la réflexion. Est-ce qu'on a la bonne solution? On ne le sait pas, mais certainement que c'est important d'en débattre. Il y a d'autres mesures qu'on pourrait considérer, comme moi, je pose beaucoup pour la tarification des services publics, possiblement à un taux croissant ou avec des exemptions pour les gens moins fortunés, mais les gens riches, qu'ils veulent pas, ils consomment.
Ouais.
Alors, ils consomment des services publics,
c'est une
façon d'aller le chercher. Ou une taxe à la consommation, augmenter les taux, par exemple, de la TVQ à un taux plus élevé. Encore une fois, peut-être avec un crédit pour les moins fortunés. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Michel, pour cette super chronique. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Les ferrofluides de fleurs de Clopelgag.
Le parrainage civique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme qui a pour mission d'améliorer la participation sociale de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et ou physique, avec ou sinon un trouble de santé mentale. Et récemment, dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole qui se déroulait en avril, on a remis, donc le parrainage civique a remis ses prix, Gérard Hamon. Et les personnes qui ont gagné le deuxième prix s'appellent Sandrine Rousseau, qui est marraine. Bonjour Sandrine, elle est au bout du fil.
Je m'appelle Sandrine Lemiroy, mais bonjour.
Ah, vous sent... ah, c'est drôle, on m'avait envoyé Rousseau. Alors, dites-moi, votre nom de famille?
Lemiroy.
Lemiroy. Alors, enchantée Sandrine Lemiroy. Et Stéphanie Hamel, j'espère que vous avez j'ai le bon prénom et le bon nom de famille.
Oh oui, moi je m'appelle Stéphanie Hamel, je suis la filleule de Sandrine et on fait beaucoup de choses.
Et je pense que Stéphanie est enchantée par les activités qu'elle fait avec vous, Sandrine. D'abord et avant tout, là, comment vous avez découvert le parrainage civique? Ça existe depuis longtemps. Je m'adresse à vous, Stéphanie.
Bien, je ne sais pas d'où j'ai connu ça, mais c'est...
Est-ce que ce sont vos parents qui sont ici avec
oui,
vous?
Oui, c'est mes parents
qui vous en ont parlé.
Ah oui, 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 c'est mes parents qui m'en ont parlé.
Oui. Et vous, Sandrine?
En fait, moi, j'ai fait un stage à l'organisme pendant mes études.
OK. Un stage dans l'organisation?
Oui, exactement. Dans le fond, j'ai fait un stage durant ma technique en travail social.
OK. Et comment vous avez rencontré Stéphanie? Là? Ça s'est fait comment? Parce que c'est un jumelage, là. Et j'imagine que ça prend des critères précis. On se dit, ah oui, il me semble que Stéphanie a des affinités avec Sandrine, que Sandrine a des goûts similaires aux goûts de Stéphanie. Comment ça fonctionne?
En fait, c'est qu'on va présenter notre candidature au parrainage civique de notre région, parce qu'il y en a dans différentes régions. Et on va, dans le fond, eux, ils vont faire comme une analyse de notre candidature. Nous, on va expliquer qu'est-ce qu'on cherche une personne, c'est quoi nos intérêts et tout. Puis ils vont nous présenter certains profils. On va choisir celui qui nous intéresse, puis après, on va pouvoir rencontrer la personne dans l'espoir que ça clique bon. Ensemble pour par la suite créer une relation d'amitié, puis que cette amitié-là puisse perdurer pendant de nombreuses années.
Mais pourquoi vous avez choisi Stéphanie?
C'est parce qu'on s'est rencontrés avec le parrainage civique en jumelage. Et là, la personne a dit « Sandrine Lemeroy » et je l'ai accepté. Oui!
Ça a cliqué entre vous.
Oui!
Et exactement.
Sandrine aussi, vous avez été charmée, mais c'est difficile de ne pas aimer Stéphanie, hein? de pas avoir envie de passer du temps avec elle, parce que êtes-vous toujours comme ça, de bonne humeur, Stéphanie?
La plupart du temps, oui, parce que quand je me lève puis que tout va bien, je choisis une belle journée, puis tout va bien, puis là, tout va bien.
Oui.
Une belle journée ensoleillée.
Ah bien, ça aide au moral.
Ça aide au moral.
Et comment ça se passe, vos rencontres? Est-ce que vous vous voyez une fois par semaine, une fois par mois? Et qu'est-ce que vous faites? Je vais laisser la parole à Stéphanie, là.
Une fois par mois, on s'écrit et on fait des activités ensemble.
Oui. Et quelle sorte d'activités vous faites?
On est allé faire du coloriage chez Sandrine.
Allez chez Sandrine, à la maison, chez
oui,
Sandrine.
Oui, puis aussi, on fait des activités comme... on est allé au Café Céramique. Des fois, on fait des activités avec le parrainage civique, puis que Sandrine est là. Puis ça me fait chaud au cœur. Puis ça me procure un sentiment de sécurité. Ça me rassure beaucoup.
Oui.
Aussi,
vous êtes bien avec Sandrine.
Ah oui, puis parrainage civique, des fois, on est allé à la cabane à sucre, on est allé à...
Vous avez fait des sorties?
Oui.
À part la cabane à sucre, est-ce que vous faites des sorties culturelles? Est-ce que vous allez voir des matchs sportifs?
Ah, on est allé voir un spectacle de Marie-Mé, moi, puis Sandrine, puis on est allé voir deux autres spectacles à Laval.
Ah oui. Alors, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire, si je comprends bien, Sandrine.
Oui, exactement. Dans le fond, ça dépend des intérêts de chaque personne. Comme Stéphanie et moi, bien, on aime le bricolage, faire certains sports, aller voir des spectacles. Fait que c'est des choses qu'on a pu faire, mais l'implication du parrainage civique, comment ça fonctionne, c'est un minimum de 3 heures par mois.
OK, 3 heures par mois. Donc, c'est pas si demandant que ça, là.
Non, c'est très réaliste. Là. C'est comme un avant-midi ou une soirée là, par mois. Là.
Alors, on invite les gens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de filleuls qui sont en attente de marraines ou de parrains, parce que ce sont des hommes ou des femmes qui peuvent accompagner les filleuls.
Oui, exactement. Ouais. Il faut juste que ça soit une personne adulte, là, ouais. 18 ans et plus.
Et c'est quoi la plus grande qualité pour faire ce genre de... Ben, j'allais dire travail, de collaboration, d'activité.
Oui, ben, je pense que c'est d'être ouvert d'esprit, vraiment, ouais. Tu sais, puis d'avoir du plaisir avec la personne.
Stéphanie, ça fait combien de temps que vous voyez Sandrine, que vous connaissez Sandrine et que vous faites des activités avec elle?
Ça fait depuis mars 2023.
Ah, ça fait quand même 3 ans. Et puis là, récemment, bien, on a appris que vous étiez, il y a Romain Brun, parrain, et Samuel Ledoux, filleul, membre du parrainage civique Champlain, qui sont les gagnants du prix volet RQPC, donc l'édition 2026 du prix Gérard Hamon, qui est remis par le Regroupement québécois du parrainage civique. Vous êtes arrivé deuxième. Deuxième, c'est la médaille d'argent. Bravo!
Oh oui, merci, madame!
Alors, je me demandais, qu'est-ce que ce prix-là, est-ce qu'il y a eu une remise de prix? Est-ce qu'on vous a appelé pour dire vous êtes les gagnantes, Sandrine?
Bien, on a eu un Zoom.
On va laisser parler Sandrine. Ah, oh, bien, après ça, ben, je pense que Stéphanie était bien partie, Sandrine.
Ben oui, à plaisir.
On a eu un Zoom.
Oui.
Puis là, Là, on a gagné, moi puis Sandrine.
Wow!
Et je suis fière de ça!
Mais on vous félicite. Et pourquoi vous pensez que vous avez gagné, Sandrine?
Ben, je pense qu'on, Stéphanie puis moi, on est un très beau jumelage qui est quand même très impliqué, puis justement qu'on se voit quand même beaucoup, puis qu'on fait toutes sortes d'activités ensemble.
J'ai lu que vous l'avez remporté le prix aussi parce que vous êtes une source d'inspiration. Votre jumelage est fondé sur l'entraide, l'amitié et la réciprocité. Alors, vous êtes devenus des amis, si je comprends bien.
Oh oui, on est devenus comme... Plus qu'un ami, c'est meilleur ami.
Ah oui? Vous diriez que Sandrine, c'est votre meilleure amie?
Oui.
Wow. Et Sandrine, est-ce que vous avez ce sentiment d'amitié-là envers Stéphanie? Qu'est-ce que Stéphanie
oui,
représente dans votre
plaisir.
Vie?
Oui, mais on a toujours du plaisir ensemble, Stéphanie et moi. Stéphanie, elle m'apporte vraiment une dose de bonheur au quotidien. Je pense que comme vous pouvez l'entendre,
ah oui.
Stéphanie, c'est une personne pétillante,
un petit soleil. Oui.
Enjouée. Et tout, fait que ça m'apporte vraiment une belle dose de légèreté dans mon quotidien.
Et est-ce que vous comptez continuer ce jumelage-là, cette relation-là entre vous deux? Il n'y a pas de limite, là.
Oh oui, non. Tellement! Ça me fait chaud au cœur. Oh oui!
Est-ce que, Sandrine, est-ce que vous en connaissez d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, là, qui fait partie du parrainage civique et qui rencontrent soit un filleul ou... un ou une filleule là, qui a une déficience intellectuelle ou un handicap physique ou un trouble de santé mentale, est-ce que vous les côtoyez, les autres pères, P-A-I-R?
Oui, bien, dans le fond, on a souvent comme des déjeuners ou des brunchs de reconnaissance bénévole aussi, puis on a un groupe sur Facebook qu'on peut parler ensemble.
Ah, alors Stéphanie, aussi, ça vous permet de rencontrer d'autres personnes?
Oui, ça me permet de rencontrer... beaucoup, beaucoup ouais. de personnes.
Mais tant mieux, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de sociable.
Oui.
Oui. Qu'est-ce que vous aimez chez les autres? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de rencontrer des nouvelles personnes?
Des fois, c'est parler de la vie quotidienne. Des fois, c'est s'intéresser à la personne. Dire qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. C'est quoi ses intérêts?
Oui. Vos intérêts, vous vous intéressez à quoi? Puis une journée dans la vie de Stéphanie, là, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à... Je me lève le matin, je regarde mes vieux catalogues Sears et Eaton, distribution aux consommateurs, si j'ai le temps. Mais la plupart du temps, je vais à l'école 5 jours.
Ouais.
Après ça, ben j'ai des activités la fin de semaine comme aco-loisirs. Tu sais, des intervenantes qui organisent des sorties pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle.
Mm-hmm.
J'ai commencé Autisme Laurentide à Blainville, Habileté sociale. Ils font une sortie par mois. Puis c'est des autistes de haut niveau qui organisent des sorties ou même des fois, on va peut-être faire livrer du restaurant, mais ça dépend des fois.
Ouais.
Puis Mouvement de personnes d'abord... de Sainte-Thérèse, mais là, j'ai commencé à Saint-Jérôme, hockey cosum et basketball.
Wow! Vous êtes une femme occupée, Stéphanie.
Oui!
Et Sandrine, il restait quelques secondes. Le parrainage civique, est-ce que ça peut changer une société comme la nôtre, vous diriez?
Vraiment. Je pense que c'est un bel organisme qui peut aider comme à la sensibilisation de la réalité des personnes à besoins particuliers.
Alors, on invite les gens qui ont du temps. 3 heures par mois, vous disiez tantôt?
Oui, exactement.
Bon. Alors, c'est quand même pas énorme et c'est un bénévolat, je trouve, enrichissant et tellement humain. Parrainagecivique.com pour avoir plus de détails ou sinon 1-877-PARRAIN, 1-877-727-7246. Et j'ai eu le plaisir d'en parler avec les gagnants de la médaille d'argent.
Oui!
2026, je rappelle vos noms et là, je vais bien les nommer. Ben, en ce qui concerne Sandrine, là, je me suis un petit peu gourée sur votre nom de famille et je m'en excuse. Sandrine Lemire-Roy, marraine, et Stéphanie Hamel-Fiel. Ça a été un grand plaisir de faire votre connaissance.
Oh, merci, Madame merci. Denis.
À la prochaine.
Merci, Madame Denis. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer en personne.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
parle une langue aux accents qui me sont familiers. D'un pays qu'une nuit, dans un rêve, j'aurais visité. Je la prie de pardonner à l'avance mes maladresses. Elle sourit poliment, mais je crois qu'elle ne m'a pas compris. La jeunesse est un autre pays. Il habite une ville secrète, un monde parallèle. Une réalité qui possède sa loge et qu'à elle. Connaît les mots de passe et les formules de politesse. Qui ouvre les salons décadents de l'aristocratie. La jeunesse est un autre pays. Ils sont beaux les enfants du nouveau continent de plastique. Ils se tiennent debout, dansent avec les mouvements tectoniques. Rame à contre-courant avant que l'horizon disparaisse. Oui, je sais que la vague s'en vient, mais moi je reste ici. La jeunesse est un autre pays. Ils sont toute une armée qui cherche à traverser la frontière. Nous sommes presque autant à souhaiter revenir en arrière. On peut changer les meubles de place, on peut changer d'adresse. Mais on ne revient pas sur ses traces au chemin de la vie. La jeunesse est un autre pays. La jeunesse est un autre pays. Elle regarde les beaux paysages dans les magazines. Se projette en arrière dans des voyages qu'elle imagine. Elle revoit ce coin de paradis, cette vie de paresse. Mais ne reconnaît pas les visages dans la photographie. La jeunesse est un autre pays. Il porte un nom de plume, un costume surdimensionné. Et consomme la nuit des alcools de fruits mal aimés. Il embrasse la mort, aime de tout son corps et se blesse. On a tort de penser que je suis si différent de lui. La jeunesse est un autre pays.
La jeunesse est un autre pays, une chanson de Philippe B.
Elle est arrivée en studio, je n'y crois pas mes yeux. Elle s'appelle Anne-Marie Auvin et on est tous heureux de la connaître, de la rencontrer en chair et en os. C'est une première, Anne-Marie.
Moi aussi, je suis heureuse parce que je vous parle depuis 7 ans.
Oui, ah, vous avez cette voix. Vous êtes vraiment Anne-Marie Auvin.
Oui.
Et Anne-Marie, vous me disiez en dehors des ondes que ça fait quoi, 7 ans?
Oui.
J'étais pas sûre. J'avais l'impression que ça faisait 4 ou 5 ans, mais déjà 7 ans.
Juillet 2019.
Je n'en reviens pas. Et est-ce que vous avez calculé le nombre de livres que vous avez lus, dont vous avez parlé à l'antenne de Canal M dans l'émission quotidienne?
Bien, à chaque année, c'est autour de 200-300, là, selon...
200-300 fois 7, ça fait beaucoup?
Ça fait du... Oui.
Ça fait du livre.
Oui. Et je donne tous mes livres à la bibliothèque municipale de mon village, à Maria,
après
que je les ai passés en nombre.
Oui.
Comme ça, ils peuvent servir à d'autres. Et puis aussi, je le mets sur ma page Facebook pour que les gens aient envie d'aller le lire.
Wow! Et vous relayez aussi la chronique sur Canal M?
Oui, puis aussi, j'écris dans un autre journal. Alors, ça fait que je ne fais quasiment que ça.
Ouais,
mais,
un métier à temps plein.
Oui, c'est, ouais. C'est très intéressant.
Vous lisez depuis combien de temps, Marie? On a du temps.
Depuis que je suis née et que je sais lire, mais sauf que d'une manière professionnelle, pour faire des chroniques, j'ai commencé vers 90.
90, ça fait quand même 36
ouais, j'ai fait
ans.
Radio, télé, les journaux.
Ouais.
J'ai comme un plaisir à partager mes passions lecture.
Ça paraît, ça se sent. Et est-ce que... Qui vous a donné envie de la littérature? Comment vous avez... vous êtes mis à lire là, et à aimer ça?
Ça a commencé très jeune. J'avais 8 ans. Et j'avais des sœurs qui étaient beaucoup plus vieilles. Et à leur école, à l'époque, ils donnaient des prix scolaires avec des piles de livres. Et parmi ça, il y avait la littérature jeunesse de la comtesse de Ségur. Mmh. Alors, pendant l'été, nous avions un chalet où il y avait à peine l'eau ou l'électricité. Là. Et j'avais trouvé le sac des prix de mes sœurs qui dataient d'une dizaine d'années et je m'étais mis à lire La Comtesse de Ségur. Je n'ai jamais arrêté. Et ma mère, qui était une lectrice aussi, avait dit à mon parrain, à ma marraine, vous allez lui offrir toujours des livres en cadeau pour toutes les occasions possibles. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert la littérature jeunesse, bien sûr. Puis après ça, j'étudiais en littérature. Fait que forcément, évidemment, je lisais énormément de livres. Mais pour des travaux, c'était différent.
Oui.
Là, je lis vraiment plus par curiosité et pour le plaisir depuis pas mal
d'années. Comment vous choisissez les livres que vous proposez à Canal M?
Bien, il y a beaucoup d'éditeurs qui me sollicitent, mm-hmm. c'est sûr, parce que ce que Canal M fait, il faut croire que c'est très professionnel, parce qu'il y en a qui me répondent « On est toujours content de vous envoyer des livres qui vont passer à Canal M. »
Wow!
Alors, donc, bravo à vous.
Bien, bravo surtout à vous, Anne-Marie.
Et puis moi, je suis curieuse. Je regarde qui gagne des prix, je regarde ce qui est à la mode, qui lance des livres, et je m'attache aux auteurs, si bien qu'il y en a qui m'ont mis sur leur page Facebook, qui veulent suivre ce que je dis, même si c'est pas toujours leur livre qui est en vedette. Alors ça donne des belles histoires. Oui, vraiment, c'est touchant parfois ce qu'on m'écrit par après. Ouais.
Et c'est très stimulant aussi.
Bien sûr, là, on a l'impression qu'on sert à quelque chose.
Oui. Anne-Marie, un des auteurs que vous aimez beaucoup, parce que c'est pas la première fois que vous en parlez, c'est Jean Lemieux, qui propose Un monde sans Dieu. Et je pense que c'est une lecture qui vous a fait beaucoup plaisir.
Oui.
Vous a procuré du bonheur.
Je précise que c'est Un monde sans Dieu avec un X, ça n'a pas vraiment rapport avec
des
Dieu qu'on connaît, des minuscules. Et c'est le neuvième roman qui concerne le détective surprenant.
Donc, c'est une enquête, neuvième enquête.
Oui. Et puis, peut-être que des gens ont vu Détective surprenant à la télévision, parce qu'il y a eu deux séries.
Avec Patrick Yvon et Catherine Brunet, entre autres, je crois.
C'est excellent.
J'ai jamais vu.
Le premier a été tourné entièrement aux îles. Le deuxième, peut-être aussi, j'en sais rien.
Mais là, il y a des problèmes de budget, alors peut-être que ça ne sera pas tourné entièrement aux îles.
Ça coûte très cher.
Ouais.
Alors, c'est un roman policier, bien sûr, mais Jean Lemieux a le don de faire de ces romans-là des microcosmes de la société. Et surtout, André Surprenant, c'est un gars qu'on aime.
Le personnage principal.
Oui, le héros, tout passe par lui. C'est lui qui raconte, c'est lui qui ressent, qui prévit. Je ne sais pas, il pressent qu'est-ce qui va se passer. Il est comme doté d'un sixième sens. Et puis, finalement, on s'attache à lui d'un tome à l'autre. Il a vieilli. Là, il y a à peu près 50-quelques. Et sa conjointe, Geneviève Savoie, est un peu plus jeune, elle a 10 ans de moins. Ils ont fait une famille reconstituée. Et puis là, le roman commence alors que c'est l'anniversaire de Geneviève. Il y a la blonde de son fils et un autre qui vont avoir des enfants bientôt. Sa fille, c'est ça, Maude. Et puis là, il y a un appel pendant la fête parce qu'il y a une urgence en tant que policier, bien sûr. Alors, c'est le père Paco qui a été retrouvé mort derrière l'église Notre-Dame des Guadeloupe à Montréal. Et ce père Paco-là était, paraît-il, l'ami des immigrants. Il défendait les filles qui se faisaient exploiter dans la prostitution. Puis il était peut-être un petit peu mêlé dans les cartels de drogue, on ne sait pas trop.
Oh, un personnage intéressant.
Oui. Et là...
Emma me suspect un peu.
Et c'est ça, il n'était pas, comme on dit, toujours un saint. Là,
ouais.
Bon, alors, pour cette occasion-là, il y a des soupçons qui sont versés vers la Montérégie. Ça m'a beaucoup plu parce que moi, ce matin, je suis partie de Saint-Damas où ils vont aller enquêter chez l'Esti de Bissonnette ou Samoisette, je ne sais pas trop, Bessette, non, l'Esti de Bessette.
Ce sont les répliques, les mots de l'auteur.
Oui, c'est pour moi qui dit ça.
Ouais.
Oui, puis il dit que là, lui, il exploite tous les immigrants qui travaillent dans les champs parce que lui, il est loup à des compagnies, puis il fait du profit sur eux autres, puis il dit que dans une journée d'été, il peut se faire 40 000 $ de profit, c'est fou. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ça que l'enquête va nous dire. Aussi, il va à Chambly, où il y a une libraire là, qui est mêlée à ça, parce que la libraire, on apprend qu'elle connaît très bien le père Paco. Mais j'en dis pas plus long.
Non,
et puis, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'allusions littéraires dans son livre, parce que Jean Lemieux, c'est un lecteur. Et ce livre-là, bon, ben, il nous dit là, que finalement...
Mais quel âge, Jean Lemieux?
Ben,
un petit aparté.
Il est né en 54, alors okay. Là...
Ça lui fait 72 ans.
C'est ça, bon.
Hein?
Ouais. Oui. Okay. Puis en même temps que tout ça se passe, ben, il y a une jeune prostituée de 23 ans qui a disparu, qui s'appelle Sophia Espinoso. Alors lui, son collègue, il s'appelle Sébastien Guzman. Donc ses parents sont d'Amérique du Sud. Et ça le touche beaucoup parce que ce prêtre-là, il vient d'Amérique du Sud. Et puis il y a beaucoup de gens immigrants qui sont autour de lui. Puis là, il se sent mal. Et pour vous montrer un exemple, j'ai trouvé un extrait où c'est ici qui dit ça, que finalement, lui, il se sent pas bien parce que à chaque fois qu'on parle des immigrants puis de l'Amérique du Sud, on parle toujours de la drogue. Et là, lui, il lui dit...
Il y a des gros préjugés tenaces.
Oui, j'en ai assez des cartels colombiens. Je m'appelle Guzman, mon père est né à Medellín. Toute ma vie, j'ai dû répondre à des questions, des allusions. Et même si je suis policier, si je suis né à Valleyfield, et si je connais par cœur, et j'ai couché dans mon char de Richard Desjardins. Donc, il se sent mal par rapport à ça. Geneviève Savoie, qui est la compagne de Surprenant, elle travaille sur le territoire de la Montérégie avec la SQ, puis elle travaille beaucoup avec les nouveaux arrivants. Donc, elle se sent concernée aussi. Mm-hmm. Et lui, André Surprenant, c'est un nostalgique. C'est quelqu'un qui va retourner en Montérégie où il est né.
À Valleyfield.
Non, lui, il est né à Iberville.
Oui. C'est l'autre personnage.
C'est ça. Et là, bon, ben, il va, par exemple, nous parler de ses souvenirs quand il va, par exemple, aller enquêter dans la région d'Iberville. J'essaie de trouver un... Oui, c'est ça. Surprenant va avec Geneviève Savoie en Montérégie. Alors, il dit, il était heureux de retrouver cet espace de complicité professionnelle avec Geneviève. Il était aussi ravi de sortir de Montréal pour enquêter dans la région où il avait passé les 15 premières années de sa vie. Si, enfant, il croyait que les montagnes montérégiennes étaient de vieux volcans, c'était peut-être parce qu'il rêvait d'échapper à la morne tranquillité des plaines qui encerclaient Iberville. Son grand-père avait quitté la ferme familiale de Saint-Alexandre pour aller travailler dans les usines de Saint-Jean. La seule éminence dans son horizon d'enfant, c'était le Mont-Saint-Grégoire, cette verrue de pierre rabotée par les glaciers. Aussi bien penser qu'il s'agissait d'un vieux volcan que d'une éruption imprévue pouvait le propulser dans une aventure. Par ailleurs, s'il s'était abstenu d'incliner le dossier de son siège devant Geneviève, c'est qu'elle lui avait bien fait sentir qu'une autre forme de cataclysme la menaçait. Un couple SQ-SPVM enquêtant ensemble, sans témoin, pouvait devenir une inépuisable source de complications. Mmh. Effectivement, à chaque fois qu'il peut, il nous rappelle des souvenirs de sa vie, de son enfance, de sa mère, de son père, de sa famille.
Un grand nostalgique.
Oui, puis un clan familial très fort.
Ouais.
Et tous les autres tombent, parlent de la disparition de son père, du mystère. Là, on l'a retrouvé, mais dans les premiers romans...
Donc, ça veut dire qu'on ne pourrait pas commencer par le 9e.
Oui, on peut très bien commencer. Oui, puis d'ailleurs, il y a des explications pour pas qu'on soit perdu qui sont offertes en bas de page à chaque fois.
Merci
voir
aux éditions Québec-Amérique.
Oui, et à l'auteur qui met des notes. Oui, c'est ça. Alors donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est sympathique. Et là aussi, où j'ai bien ri, c'est que moi, j'ai longtemps habité Saint-Hyacinthe et j'écris dans un journal qui est le compétiteur du Courrier de Saint-Hyacinthe.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Mobile.
Ah!
Oui, et puis là, bon, ben lui, il va aller rencontrer un journaliste
à Saint-Hyacinthe.
Au Saint-Hubert, un restaurant qui existe vraiment.
Le monde est petit!
Oui, puis là, je riais parce que il dit qu'il accueillit, le journaliste, il accueillit Surprenant et Geneviève en essuyant d'une main potelée un bout de salade de choux crémeuse au coin de la lippe. Les limiers, ravis de vous rencontrer, sergent Surprenant, depuis le temps que vos exploits font les manchettes. Quant à vous, madame, je suis ravie de vous contempler tout court. Vous m'excuserez d'avoir déjà commandé ces jours de tombée. L'homme était un moulin à paroles. Émoustillé par cette rencontre avec deux hauts gradés, il parsemait ses propos de mots recherchés. Geneviève mena l'entrevue. Elle rencontra moins de difficultés à faire parler le journaliste qu'à le ramener patiemment à ce qui l'intéressait, les relations entre Jean-Louis Bessette et le père Francisco Bernal. Donc, Bessette, qu'on soupçonne. Et puis là, ben, il va même laisser la facture pour se faire payer son repas par les deux policiers.
Il y a de l'humour, il y a de l'esprit, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de suspense? Est-ce qu'on a peur?
Non, l'intrigue est bien menée. C'est beaucoup le côté humain, je dirais, qui est qui est là, avec les problèmes de société que l'on vit. Et puis, c'est divisé en 30 chapitres à peu près. Et puis, bon, ben, l'enquête, il sait comment gérer ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il s'émeut à plusieurs moments. Ça nous le rend très différent. Il y a beaucoup de références au hockey, parce que c'est un amateur de hockey, on le sent. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle...
Il doit être bien énervé par les temps qui courent.
Oui, il doit suivre ça. Et le chapitre 9, ça s'appelle l'avantage numérique. Mais il y a aussi des liens de temps en temps avec la littérature, beaucoup. À la fin, il fait la liste de toutes les références dont il est question à certains moments dans le livre. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé pour toute cette sensibilité qui est celle de l'auteur.
Est-ce qu'il est aussi bon que les 8 autres que vous avez lus antérieurement?
Oui, d'ailleurs, il a gagné un prix pour l'affaire des Montants cet automne, le prix pour le roman policier de Saint-Pacôme. Moi, je les ai tous lus, je les ai tous dévorés parce que, d'abord, j'aime les îles. Et puis,
les îles de la Madeleine.
Oui, les îles de la Madeleine, où il y a plusieurs tombes. Ensuite, il s'est rendu compte qu'aux îles de la Madeleine, c'est limité. À un moment donné, tu ne peux pas tout gérer là. Alors, il a fait des enquêtes à Québec, à Montréal. Et celle-là, bon, ben, se passe en Montérégie. Ça m'a bien fait rire parce que c'est de là où il vient. Moi, j'ai vécu là longtemps et on reconnaît effectivement les lieux qu'il nomme.
Oui, vous étiez en pays de connaissance.
Oui, et puis il a une grande sensibilité pour la vie qui passe. Par exemple, sa mère est morte dans l'histoire deux semaines avant, ils l'ont enterrée. Là, il va avoir un petit-fils qui s'appelle Arthur, qui est le nom de son arrière-arrière-grand-père. Donc, cette filiation-là est importante. Et je peux terminer avec une citation. On a juste une mère. Qu'on la perde à 4, à 24, ou à 54 ans, il y a un avant et un après. Je ne sais pas ce que sera cet après. Je sais seulement qu'avec son amour, ses qualités et ses défauts, Nicole était le vieil arbre qui embellissait notre terrain et qui ombrageait notre maison. Un très bel hommage aux mères dont on parlait dimanche.
Oui, hein, c'était la fête des mères. On parle tout le temps, mais hier, on les fêtait. Pas
c'est ça.
Hier.
Juste avant
on
hier.
Est mardi. Oui, oui, ouais, dimanche.
Ça. Mais cette sensibilité-là, c'est ça qui fait la différence. C'est pas un policier typique, là, avec tous les clichés qui vont avec. Alors, ça rend
Pas d'alcool, lui?
Oui, il aime le scotch. Okay. Oui, oui. Il y a quand même des défauts, là. Il y a des défauts.
Ouais, ouais.
Puis,
c'est un peu cliché, ça, aimer le scotch.
Puis dans les anciens. Puis il aime beaucoup manger. Puis il cuisine beaucoup.
Donc, il y a de la nourriture dans
le... Il y a de la nourriture. C'est appétissant. Puis avant d'être avec Geneviève, il était avec une femme qui était italienne. Donc, les mets italiens ont une bonne place aussi. C'est un homme qui aime jouir de la vie. Et qui
un bon
est,
vivant.
Oui, puis qui est à l'attention des autres. Il y a les enfants de sa blonde, puis il y a les siens, puis les petits-enfants. Puis tout ça, pour lui, c'est très important. C'est ce qui le tient en vie. Et ça
un
fait
personnage
du
attachant, riche, oui. Qui a plusieurs couches.
C'est ça. Et je trouve que Patrick Yvon l'incarne très bien dans la série.
Quel acteur.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, bien, Anne-Marie Aubin, merci. Ouais. Vous êtes la bienvenue en n'importe quand. Vous repasserez.
Je passe
pas loin
souvent,
de la Gaspésie.
Non, non.
Ça se fait bien.
C'est un bon 10 heures de route, là. Ouais.
Alors, bien, bonne fête des mères un petit peu en retard, Anne-Marie, ouais. Parce que je sais que vous êtes une mère. Et merci pour votre visite, pour cette lecture. On rappelle le titre « Un monde sans Dieu » aux éditions Québec-Amérique et c'est écrit par Jean Lemieux. On se retrouve la semaine prochaine?
Oui, mais de la Gaspésie.
Ouais, au plaisir.
Au revoir.
Si t'es correct, moi je suis correct. virage, ça parle de faire le ménage. Ça dit parler en ton nom, tout sourire, tout en croisant les doigts sous la table. Les diables et dans la sémantique se cachent dans les détails, dans les caractères de bas de page. Le gros bon sens, le dos large, quand au bout se cache une pièce, quand c'est pour parler à ta place. Ça brosse à gauche, ça brosse à droite, les voisins bardassent en bas. Je m'entends plus penser, est-ce que c'est pareil pour toi? Pourquoi gueuler si on s'entend pas? Mais tu sais, y'a rien qui nous oblige. Si t'es correct, moi j'suis correct aussi. Si t'es correct, moi j'suis correct. 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 Merde, t'es correct. Merde, t'es correct. Si t'es correct, moi j'suis correct. Si t'es correct, moi j'suis correct. Si t'es correct, moi j'suis correct.
Correct, une chanson de Les Louanges.
Oui, une chanson qui fait partie de son plus récent album. Appel au respect des stationnements pour personnes handicapées. Le Val-d'Orien Dominique Piché souligne que plusieurs stationnements pour personnes handicapées sont conçus pour donner davantage d'espace aux véhicules adaptés. L'organisme Moelle Épinière et Motricité Québec, Mémo QC, s'arrête à Val-d'Or et Rouyn-Noranda cette semaine pour sensibiliser la population à l'importance de respecter les stationnements pour personnes handicapées. Armés de contraventions citoyennes, les bénévoles de Mémo Québec espèrent mieux faire comprendre l'importance réelle d'un geste qui peut sembler anodin. Bien souvent, les gens vont se dire qu'ils sont stationnés là juste pour 2 minutes. Mais ce geste a un impact réel sur les gens qui en ont besoin, souligne Vanessa Anne Paré, qui est coordonnatrice du service d'intégration sociale à Mémo Québec. On milite pour une plus grande forme de respect. On est humain et il nous arrive tous de faire des erreurs, mais il est important de passer le message. Tétraplégique depuis un accident vécu en 2006, Dominique Piché constate trop souvent à son goût que les cases de stationnement dont il aurait besoin sont occupées sans raison. On a besoin d'être proche de l'entrée parce que c'est physiquement difficile de devoir se stationner plus loin et faire de plus longues distances, fait-il valoir. Aussi, dans mon fauteuil roulant, je n'ai pas la même hauteur qu'une personne qui marche. Quand je peux me stationner plus proche, ça réduit les chances de me faire rouler dessus dans le stationnement. Il précise que plusieurs stationnements pour personnes handicapées sont aussi conçus pour donner davantage d'espace aux véhicules adaptés. J'ai besoin d'espace dans le côté pour déployer mon ascenseur et sortir, ajoute Dominique Piché. Les gens vont souvent se stationner sur les lignes obliques qui sont là pour nous parce qu'ils ne se rendent juste pas compte. C'est sûr que ça amène souvent de la frustration. Si l'approche de Mémo Québec passe par la communication et l'information, l'organisme croit aussi qu'une application stricte des règlements par les autorités policières fait partie de la solution. On a une bonne collaboration avec les sûretés municipales et la Sûreté du Québec, ajoute Vanessa Anne Paré. Durant la Semaine québécoise des personnes handicapées, au début juin, il y a d'ailleurs des directives pour amener les policiers à émettre davantage de contraventions pour les personnes qui n'ont pas la vignette. On sent qu'il y a une volonté de changer les choses et que la question soit prise au sérieux. Un texte de Marc-André Landry qui a été diffusé sur le site de Radio-Canada. Daniel Bélanger, c'est toujours bon. Et ce qu'on aime entendre aussi, c'est sa voix qui est extraordinaire et qui est associée au hockey depuis tant d'années.
Tu sens qu'il y a une vibration à l'intérieur du building. C'est pour le vrai.
Michel! On voulait l'entendre dire « Accueillons nos Canadiens! » Mais j'ai fait une demande assez expresse à Mathieu. C'était la voix de Michel Lacroix.
Ah! Ce troisième match de la deuxième ronde des séries éliminatoires pour le Commissaire de la Coupe Stanley entre les Sabres de Buffalo et vos Canadiens de Montréal!
Bon, bien, ça se passe ce soir. Ça continue ce soir. Et aujourd'hui, dans la presse, il y a un beau portrait avec l'annonceur maison Michel Lacroix. Les décibels s'emballent parfois. On a le meilleur, c'est ce qu'assure Patrice Brisebois. Texte de Marie-Ève Moras que je vous invite à découvrir pour découvrir Michel Lacroix, homme aussi sympathique que talentueux. Ici Hélène Denis, bonne journée. Merci, Mathieu. À demain.